Bonjour. Nous entendons souvent parler d'élections. Dans notre pays, l'année 2016 est une année exceptionnelle parce qu'il n'y aura pas d'élection. Mais presque tous les ans, il y a une élection ou une autre. Dans la Bible aussi, il est parlé d'élection. Une élection, c'est un choix. C'est l'occasion pour ceux qu'on appelle les électeurs de choisir quelqu'un généralement pour les représenter. Nous avons dans la Bible un certain nombre d'exemples d'élections. Je pense que l'un des premiers exemples, c'est celui d'Abraham. Abraham a été élu. Alors, il n'a pas été élu par un peuple quelconque, mais Abraham a été élu, c'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu pour un plan bien précis. Dieu lui avait dit, Abraham, je résume un petit peu, je paraphrase, tu auras un jour un fils et de ce fils naîtront une multitude de nations. Abraham a été choisi par Dieu qui voulait manifester son plan d'amour pour le monde en choisissant Abraham. Dans le livre des Nombres, par exemple, nous avons un autre exemple d'élection, c'est Moïse qui a, sur le conseil de son beau-père, choisi des hommes, des anciens, pour l'aider dans sa tâche parce qu'il avait une tâche trop grande pour lui tout seul. Le peuple d'Israël représentait peut-être à l'époque environ 2 millions de personnes et être tout seul à gérer 2 millions de personnes, ce n'était pas facile. Donc son beau-père lui a conseillé de choisir des hommes pour l'aider dans cette tâche. Puis plus tard, nous voyons Dieu dans le premier livre de Samuel, Dieu qui choisit un roi pour Israël. Israël insistait pour avoir un roi. Dieu, au départ, ne voulait pas trop donner de roi à Israël, mais Dieu, finalement, a choisi. Il a élu Saül. Plus tard, il a choisi David. Et ainsi de suite. Nous le reverrons tout à l'heure plus en détail, mais on peut citer l'exemple aussi de la reine Esther, qui, au départ, était une jeune juive, orpheline, adoptée par son cousin qu'il avait élevé, son cousin qui devait être bien sûr beaucoup plus âgé qu'elle, et qui un jour a été choisi, élu par le roi de l'époque, le roi Xerxès, pour devenir la nouvelle reine. Alors bien sûr, dans l'évangile, nous avons, dans l'évangile de Luc par exemple, nous voyons Jésus qui passe toute une nuit dans la prière pour discuter avec son Père, pour parler avec son Père, avec Dieu, pour pouvoir choisir, élire les 12 hommes qui vont l'accompagner, que l'on va appeler des apôtres, et qui vont accompagner Jésus pendant tout son ministère sur terre. Et puis on pourrait, et je termine par cet autre exemple, citer le choix des diacres dans la première église, qui ont été choisis parce qu'il y avait un problème dans la distribution de la nourriture aux familles nécessiteuses, et certaines étaient jalouses des autres, et surtout les veuves, parmi les veuves, surtout que l'on distribuait la nourriture. Et les apôtres ont été conduits à faire élire, puisque là c'est toute l'Église qui a choisi 7 hommes qui allaient distribuer aux tables. Et nous voyons toute la sagesse là des premiers apôtres. Mais l'élection qui nous intéresse cet après-midi, c'est une autre élection. C'est une élection en fait qui va à contre-courant de toutes les élections que nous connaissons sur Terre. En général, sur Terre, pour ne pas dire presque toujours, la plupart des élections voient un certain nombre de gens, un peuple entier, élire des hommes ou des femmes pour les représenter dans ce qu'on appelle un parlement. Mais ici, c'est le contraire qui se passe. Dans le texte de Éphésiens qui a été lu tout à l'heure, c'est une personne qui en choisit, j'allais dire des millions, probablement des milliards. Dieu a choisi un nombre incalculable d'hommes et de femmes, de tous âges, de toute nationalité, de toute langue, à l'origine de toute religion, pour leur faire connaître son amour. En fait, la nouvelle, c'est le titre « Dieu nous a élus ». Parce que c'est nous qui avons été élus. Comme ça, vous pourrez dire au moins une fois dans ma vie, j'ai été élu, j'ai été choisi. Alors, il paraît que c'est quelque chose de formidable d'être élu quand on voit, par exemple, en France, un président de la République être élu. C'est ce qu'on appelle chez nous l'élection phare, l'élection majeure. Alors, ce qui est curieux, vous savez, c'est, je remarque toujours ça à chaque fois, c'est que lorsque le président nouvellement élu remporte l'élection, il lève les bras, il salue tout le monde, on a l'impression qu'il a gagné je ne sais pas quelle compétition, qu'il est arrivé au bout, un peu comme un champion olympique qui remporte la médaille d'or. Alors, la différence, c'est que le champion olympique qui remporte la médaille d'or, il peut lever les bras, parce que cette médaille récompense le travail d'années d'efforts. Je ne sais pas combien d'heures il faut courir par jour pour espérer être champion olympique, mais je crois que c'est plusieurs heures. Je crois qu'il y avait un champion français dans le temps qui dit, lui, n'avait jamais été champion olympique, mais il avait concouru, et il disait, ce sont 5 ou 6 heures de course par jour, pendant 4 ans, puisque les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Et pendant 4 ans, tous les jours de l'année, on court 4, 5, 6 heures, pour espérer remporter la médaille qu'un seul remportera. Alors on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui courent 4-5 heures par jour dans d'autres endroits du monde. Et alors, qu'il lève les bras à l'arrivée, le vainqueur, on trouve ça normal, mais qu'un homme qui vient d'être élu lève les mains comme s'il avait remporté la plus grande des compétitions, en réalité, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Lui, il est élu, il a gagné une victoire, mais c'est pour pouvoir travailler davantage. Il paraît même qu'il y a un président français qui, nouvellement élu, il y a un certain nombre d'années, nouvellement élu, avait tout compris, puisqu'il s'est tourné à ce moment-là, quand il a su qu'il était élu, il s'est tourné vers ses collaborateurs, vers ses amis, et il leur a dit, mes amis, c'est maintenant que les ennuis commencent. Je crois que celui-là avait tout compris. Il avait compris que ce n'était pas une victoire qu'il venait de remporter, mais il venait de se voir attribuer une responsabilité. C'est exactement ce que nous voyons dans la Bible, dans l'histoire de la reine Esther que j'ai mentionnée tout à l'heure. La reine Esther a pu penser pendant un instant qu'une vie nouvelle commençait pour elle, et c'est vrai qu'une vie nouvelle commençait pour elle, mais nous sommes dans la Bible. Les choses dans la Bible sont beaucoup plus sérieuses encore qu'ailleurs. Quand la reine Esther est devenue reine, peut-être que pendant quelques jours, elle s'est prise à rêver. Elle s'est prise à rêver. Elle s'est dit, maintenant je suis reine, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je n'aurais même pas dans les plus beaux de mes rêves, les plus insensés de mes rêves, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais reine. C'est vrai que les choses s'étaient passées d'une manière un peu inhabituelle. Mais, parce que, encore une fois, nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais, si Esther avait été élue reine par le roi, si elle avait été choisie pour être la nouvelle femme du roi, après le licenciement de l'autre, de la première, après le renvoi de la première reine, c'est pour un but précis. Dieu a toujours un but particulier dans notre vie. Et voyez-vous, dans l'histoire d'Esther, il y avait quelqu'un qui veillait, quelqu'un qui savait que à un certain moment, si Dieu s'était manifesté pour elle, ce n'était pas pour qu'elle vive un rêve absolu, c'était parce qu'il avait besoin d'elle. Le trouble fait, c'est Mardoché. Mardoché a compris tout de suite que cette élection de sa cousine fille adoptive, puisqu'il l'avait adoptée comme fille, cette élection au poste, au trône royal de sa cousine, de sa fille adoptive, c'était dans un but précis. Il a tout de suite pensé que c'est vrai que nous pouvons vivre des rêves sur terre, mais celui-là était trop beau pour être juste un rêve. Et quand il savait que la situation était difficile, vous savez qu'à l'époque, Mardoché, Esther étaient juifs, tous les juifs étaient menacés puisque le premier ministre du roi avait décidé de les faire mettre tous à mort, tout simplement parce que Mardoché, le cousin d'Esther, n'avait pas voulu s'incliner devant lui en tant que premier ministre. Alors, à la suite de cela, il a décidé de faire un édit, une loi, ordonnant d'arrêter, de mettre à mort tous les gens du peuple de Mardoché, c'est-à-dire tous les juifs. Quelqu'un a dit un jour, un grand écrivain a dit un jour, nous sommes tous responsables de tout devant tout le monde. Nous sommes tous responsables, chacun est responsable de tout devant tout le monde. Voulant exprimer par ici l'idée que lorsqu'on vit dans une société, on a une certaine liberté, bien sûr qui est encadrée quelque peu, mais en même temps on a une responsabilité. Par exemple, la responsabilité d'être un modèle, la responsabilité de montrer l'exemple, la responsabilité de faire du bien plutôt que du mal, la responsabilité de nos opinions, la responsabilité de nos actions. Et d'ailleurs, la loi sanctionne la responsabilité. Lorsque nous devenons responsables d'une action mauvaise ou d'une action qui a des conséquences nuisibles pour les autres, la loi nous sanctionne. On peut se faire arrêter, on peut aller en prison, on peut se faire juger et on peut se faire condamner. Ou alors, si on n'a pas respecté la loi, par exemple, si on a commis une infraction sur la route, on a ce qu'on appelle une contravention, avec, vous savez, retrait de points et peut-être parfois retrait du permis de conduire, selon la gravité de la faute. Nous vivons dans une société, et parce que nous vivons dans une société, nous avons tous, surtout à partir de ce qu'on appelle l'âge de raison, une responsabilité. L'élection implique une responsabilité. Je suis élu par le Seigneur, pas simplement, je suis élu par Dieu, non pas simplement pour pouvoir profiter d'une vie meilleure, une vie de liberté par rapport au mal, une vie de liberté par rapport à l'esclavage du péché, comme dit la Bible. Je suis maintenant libre de vivre une vie meilleure parce que Dieu m'en donne les moyens par son Esprit qui habite en moi. J'ai une responsabilité. Dans l'Église, j'ai une responsabilité. Dans la société, j'ai une responsabilité. Et dans ma famille, dans mon entourage, j'ai une responsabilité. Peut-être que la reine Esther ne s'en rendait pas compte au départ. Elle est montée sur le trône, comme nous l'avons dit. Elle a commencé à rêver. On lui a fait comprendre qu'elle avait je ne sais pas combien de servantes à son service maintenant. Elle allait pouvoir changer de robe et de toilette tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Là, je fais peut-être rêver quelques femmes, mais bon, je plaisante, bien sûr. Et puis, on lui a montré tous les autres avantages. Elle allait manger 10 fois mieux, la nourriture extraordinaire, comme cela se faisait toujours dans les palais princiers ou royaux, ainsi qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les palais présidentiels. Mais, quelqu'un veillait. Lorsque Mardoché, son père adoptif, a compris que cette élection ne pouvait pas être juste un hasard, une belle fortune, un peu comme quelqu'un qui gagne au loto et qui voit sa vie transformée, après il faut la gérer, mais sa vie éventuellement transformée par ce gain exceptionnel et inattendu souvent. Mardoché a compris qu'il y avait là la main de Dieu. C'est pourquoi, quand la menace a été exprimée contre le peuple juif, Mardoché a compris que Dieu avait un plan, que si Dieu avait placé la reine Esther sur le trône, c'était pour lui faire jouer un rôle important. Et voici ce qu'il a dit à Esther. Alors peut-être qu'elle pensait plus à son bonheur qu'à s'occuper du malheur de ses compatriotes. Il lui a dit « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Vous savez qu'il y a un texte qui dit dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que cette position nouvelle dans laquelle s'est trouvée la reine Esther, si l'on en croit l'interprétation de Mardoché, qui s'est révélée être la bonne, a voulu faire comprendre à la reine, qui était donc sa fille adoptive, que toute élection implique une responsabilité. Là où nous sommes, Dieu nous investit d'une responsabilité. Parce qu'il nous a élus, et je le répète, toute élection implique une responsabilité. Parce que Dieu nous a élus, nous avons maintenant une responsabilité. Et suivant l'importance de la fonction que nous remplissons, notre responsabilité est plus grande. Je prends un exemple. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, dans son épître, dit « Qu'il n'y ait pas parmi vous, » il s'adresse aux chrétiens de Jérusalem, et il leur dit « Qu'il n'y ait pas, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement. » Parce qu'ils sont chargés d'enseigner la parole de Dieu, donc sous-entendu aussi de l'expliquer. Et parce qu'ils vont être, ils vont avoir donc un certain rôle révélateur, un peu comme les scribes ou les docteurs de la loi dans l'Ancienne Alliance, qui avaient comme compétence, comme fonction, de lire et d'expliquer la parole de Dieu pour que le peuple la comprenne, pour que tout le monde la comprenne. Donc quand Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, il veut dire par là que ne vous précipitez pas pour enseigner. Si vous avez reçu l'appel, le don, alors faites-le. Mais rappelez-vous qu'il y a une plus grande responsabilité, parce que votre responsabilité à vous, c'est celle de lire, d'expliquer, d'interpréter la parole de Dieu, et donc en quelque sorte de dire ce qui est la parole de Dieu et le message de Dieu. Donc, il y a bien une responsabilité relative qui est proportionnelle à notre fonction. Si demain, par exemple, l'un d'entre nous devient directeur d'une très grande entreprise qui a un pouvoir assez important dans le pays, on dira que cet homme-là ou cette femme-là est investi d'une grande responsabilité. Ses actions, ses paroles, ses décisions seront observées à la loupe et elles auront des conséquences de plus en plus grandes. Lorsque Jésus, par exemple, est remonté au ciel, ses apôtres, les 12, ont une responsabilité, je dirais presque écrasante. Je ne dis pas qu'ils ont remplacé Jésus, mais en quelque sorte, ils ont pris la succession de Jésus sur terre pour annoncer au peuple la parole de Dieu. Ce que Jésus a fait pendant quelque temps, d'une manière parfaite, parce qu'il était le Fils de Dieu. En quelque sorte, Jésus, c'était Dieu, c'était pas en quelque sorte, c'était vrai, c'était Dieu en chair et en os, pour employer une expression bien connue. Jésus, c'était Dieu en chair et en os, vivant au milieu des hommes. Alors bien sûr, les apôtres n'ont pas été cela après, mais ils ont eu pour tâche, une tâche très importante. Ils étaient à la fois des évangélistes et des enseignants, et leur tâche, c'était d'éclairer le peuple, de lui faire comprendre qui était Jésus, qui était Dieu, comment s'approcher de Jésus, comment s'approcher de Dieu, comment vivre une vie nouvelle en croyant au message de l'Évangile. Et ils ont à leur tour exprimé leur responsabilité, démontré leur responsabilité devant les autres. D'ailleurs, pendant leur formation, Jésus leur avait dit à un certain moment, c'est vous qui êtes le sel du monde. Pardon, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et à qui a-t-il dit ces paroles? Il les a dit d'abord, ce sont des paroles tirées du sermon sur la montagne. Il a dit ces paroles, le Seigneur Jésus, d'abord à ses disciples, puisqu'il est dit qu'au début du sermon sur la montagne, juste avant que Jésus ne commence à prêcher, les disciples étaient là, la foule était là, sur la montagne, Jésus était peut-être assis ou debout, je ne sais pas, en haut, sans doute pour être mieux vu, ou peut-être en bas et tout le monde autour. Et à un certain moment, la Bible dit, les disciples se sont approchés de Jésus. Et Jésus a commencé à parler. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, etc. Mais avec les disciples, il y avait quand même toute la foule. Jésus n'a pas parlé qu'à ses disciples. Et tous ceux, alors bien sûr, cette parole, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, était adressée d'abord aux disciples, c'est-à-dire à ceux qui commençaient à s'engager, à suivre Jésus. Mais elle s'adressait également à tous ceux qui, dans la foule, allaient croire à l'enseignement de Jésus et au fil des jours, devenir eux aussi des disciples de Jésus. Or, que dit Jésus à tous ces gens-là? Il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que c'est le sel? C'est une substance qui permet, premièrement, de préserver la nourriture, de la conserver et de lui donner du goût. De lui donner du goût. Quand on est au régime sans sel, on s'amuse moins. Il y a des gens qui aiment mettre beaucoup de sel. Il ne faut pas en mettre trop non plus, paraît-il. Il y a des gens qui aiment bien mettre du sel et d'autres choses encore sur leur nourriture parce que ça donne du goût. C'est vrai. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est vous, les chrétiens, pour employer un autre mot, c'est vous qui allez donner du goût à la société dans laquelle vous vivez. C'est donc pour nous, chrétiens, une responsabilité importante. Nous pourrions nous poser la question, et je la pose, et chacun répond comme il l'entend. Sommes-nous, là où nous sommes, le sel de la société dans laquelle nous évoluons? Sommes-nous le sel dans notre famille? Sommes-nous le sel, c'est-à-dire donnons-nous du goût à la vie, la nôtre et les autres, et celle des autres, dans le monde dans lequel nous évoluons, dans notre travail, dans notre environnement? Et Jésus dit une autre parole juste après, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, on a une expression en français, on dit de quelqu'un, péjorativement des fois, pour dire que ce n'est pas quelqu'un de très intelligent, oh, vous savez, ce n'est pas une lumière. C'est une façon de s'exprimer. Ce n'est pas une lumière, ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui nous apprend grand-chose, ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Jésus dit, comme il a dit, vous êtes le sel de la terre, il dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous devez être comme une lumière. Nous savons tous à quoi sert la lumière. Il suffit de rentrer dans une pièce obscure. Si vous rentrez dans une pièce, imaginez, vous marchez dans votre maison et tout d'un coup, il y a une panne de courant. Bien sûr, c'est le soir, il fait nuit. Donc tout de suite, la maison est plongée dans les ténèbres. Dans les maisons, c'est pas comme dans les salles de réunion où il y a des petits spots qui doivent rester allumés même quand il y a une panne de courant. Alors, avec ces spots-là, on arrive quand même à voir quelque chose. On n'est pas dans l'obscurité complète. Mais dans une maison individuelle, ce n'est pas le cas. S'il y a une panne de courant, la nuit, on ne voit plus rien. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est chez nous, donc on va se repérer quand même. On sait dans l'endroit où on est, quand la lumière a sauté, est partie, et donc on va, en touchant les murs, avancer comme cela. Mais quand la lumière revient, tout de suite, on est heureux, parce qu'on voit. On voit tout et on comprend tout. Jésus, avant de dire « Vous êtes la lumière du monde », avait dit « Je suis, moi Jésus, la lumière du monde ». Jésus a assumé sa responsabilité. Jésus a tenu toutes ses promesses. Jésus, quand il a dit « Je suis le bon berger », s'est comporté et se comportait déjà comme un bon berger. L'élection est synonyme de responsabilité. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer les autres. La reine Esther s'est vue confier une écrasante responsabilité. Parfois, la responsabilité nous fait prendre des risques, nous oblige à prendre des risques. La reine Esther, vous connaissez l'histoire, elle a dû prendre des risques. À l'époque, lorsqu'une reine pénétrait dans la salle ou dans l'appartement qui appartenait à son mari, c'est-à-dire au roi, elle prenait des risques parce qu'une reine n'avait pas le droit de pénétrer dans les appartements du roi sans permission du roi. Elle devait attendre que le roi l'invite pour aller dans ses appartements. Chacun avait ses appartements. Et d'ailleurs, Esther va expliquer à son cousin, père adoptif, Mardochée, dit « Je ne suis pas allé voir le roi depuis quelque temps déjà », ce qui voulait dire « Je n'ai pas été invité par le roi à rentrer. Et si j'y vais, je risque gros. » Lorsqu'une reine pénétrait sans permission dans l'appartement du roi, qui était pourtant son mari, elle risquait même la vie si le roi le prenait mal. Certains rois, qui étaient peut-être plus lunatiques ou plus bizarres que les autres, pouvaient très bien demander, si ça leur plaisait, qu'on mette à mort leur femme parce qu'elle était rentrée sans permission. Alors Esther a pris un risque, parce que l'édit qui avait été signé par le Premier ministre allait être mis en vigueur immédiatement. Il avait déjà décidé d'envoyer cet édit dans toutes les provinces du royaume pour que partout où l'on trouverait des Juifs, on les arrête et on les mette à mort. Il fallait donc que Esther aille vite voir le roi. Donc elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle y aille, même si elle n'était pas invitée. Elle a pris sa responsabilité quelque part au péril de sa vie. Elle l'a bien compris. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais je vais y aller. Elle y est allée et le roi a été bien disposé. Et donc la responsabilité qu'Esther a prise, que la reine Esther a prise au péril de sa vie, a donné un fruit plein et parfait. Le peuple juif a pu être épargné et seul celui qui avait organisé ce complot a été mis à mort. Le texte de Éphésiens chapitre 1 nous dit aussi que nous avons, lorsque nous sommes élus par Dieu, nous avons reçu un certain nombre de choses, de bienfaits, de bénédictions. Le verset 3 nous dit « Dieu nous a bénis, une fois que nous avons été, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Le verset 7 dit « Nous avons reçu la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Donc, Dieu nous a bénis, Dieu nous a rachetés par son sang. Il nous a libérés du péché. Au verset 9 et 10, il est dit que nous connaissons, il nous a révélé le mystère de sa volonté, à savoir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité et pour la réunion de toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ, un jour prochain. En d'autres termes, Jésus reviendra un jour sur terre, il établira la paix, il inaugurera un royaume de justice, et cela, Dieu nous l'a révélé, cela fait partie de la bénédiction, des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Et puis maintenant, il y a en quelque sorte le travail à faire. Dieu, verset 11, il nous est dit, nous avons été mis à part, prédestinés à le servir et à le glorifier. Prédestinés à le servir et à le glorifier. Et au verset 4, il est dit que nous avons été mis à part pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous avons donc un programme en quelque sorte. Nous avons un programme qui est, nous devons prendre conscience d'abord des bénédictions que Dieu nous a accordées, des bénédictions qu'il va continuer à nous accorder. Nous devons aussi prendre conscience du fait que nous avons été rachetés par lui. Comme Paul dira dans d'autres épîtres, je crois dans la première lettre aux Corinthiens, nous avons été rachetés à un grand prix et maintenant nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à Dieu. Notre but maintenant, c'est de devenir de plus en plus saints et irréprochable. Nous avons donc un appel quelque part à la perfection, comme Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, vous serez donc parfaits, ou soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et puis, pour terminer avec ce chapitre, il est dit au verset 13 et 14 que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit qui nous garantit l'héritage spirituel. C'est-à-dire que Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, qui vient habiter en nous, nous donne en quelque sorte une garantie qu'un jour, toutes ces choses s'accompliront pleinement. C'est une garantie. Vous savez, quand on veut acheter quelque chose, et qu'on veut, si par exemple vous voulez acheter une maison, et qu'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter cette même maison, généralement, c'est, même toujours je pense, le premier qui verse des arrhes pour bloquer la vente, pour bloquer l'achat, qui a la maison, en déposant des arrhes, et ici c'est le même mot qui est employé. Paul dira, c'est dans Romains chapitre 8 que Paul dit, nous avons reçu les arrhes de l'Esprit. Nous avons reçu un dépôt de garantie en quelque sorte. Nous avons reçu des arrhes qui nous assurent de la suite, qui nous assurent que nous sommes maintenant la possession de Dieu. Comme lorsque la personne dépose des arrhes pour acheter une maison, on lui réserve la maison. Eh bien, ce Saint-Esprit qui habite en nous maintenant nous a scellés pour l'avenir. Nous appartenons à Dieu. Alors nous avons été choisis dans ce but-là. Nous devons vivre une vie sainte et irréprochable. Nous devons chercher à plaire à Dieu d'abord. Nous devons lui plaire en toutes circonstances. Nous ne devons pas oublier que nous sommes là pour le servir. Et la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, est plus précis encore. Jésus dit, nous avons été choisis pour que nous portions du fruit. Le chrétien doit porter du fruit. Le chrétien est le fruit qui découle naturellement de la nouvelle vie, de la vie spirituelle. C'est évidemment d'abord le fruit de l'esprit. Dieu va nous aider à développer un caractère, une personnalité qui soit agréable à Dieu, qui soit pleine de tous ces fruits, de ces caractéristiques que nous trouvons dans Galates 5, 22 et 23, où Paul dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la fidélité, c'est la bienveillance, c'est la maîtrise de soi, c'est la patience, c'est la persévérance. Tout cela fait partie de ce que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre une vie qui lui plaise, une vie à son service. Le fait fondamental de notre nouvelle vie en Christ, c'est le fait que nous avons été transformés. Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, 5, 17, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous avons été choisis, je termine par cela, pour la louange de sa gloire. Notre vie, en quelques mots, doit glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons, tout ce que nous disons, notre manière de nous comporter doit être à la gloire de Dieu, doit glorifier Dieu, doit permettre à ceux qui nous entourent de savoir que Dieu existe, et pas seulement il existe, mais il existe et il veut aider tous ceux qui ont besoin de lui. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont des hommes et des femmes imparfaits, pécheurs, mais qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être rachetés. La parole de Dieu nous dit, nous avons été élus. Dieu nous a élus pour le servir et pour le glorifier. Alors, faisons partie de ce plan, entrons dans ce plan, continuons à vivre dans ce plan, afin que Dieu soit glorifié. Amen.